La recherche-action est un terme au contour flou qui désigne généralement une méthodologie alliant théorie et mise en pratique en vue de chercher à modifier la réalité tout en produisant des connaissances liées à ces transformations. Elle implique, dans le processus de construction de la recherche, autant les chercheuses et chercheurs que les actrices et acteurs participant à l'expérimentation. Il s'agit alors d'éprouver une situation plutôt que de l'observer, de faire de l'intervention la possibilité d'une compréhension. Si ce terme est habituellement désigné pour décrire le travail d'actrices et d'acteurs sociaux, il apparaît que la pratique de certaines et certains artistes s'y apparente. Le processus de création contribue à modifier et par là comprendre les situations dans lesquelles les artistes évoluent. Tous et toutes travaillent à la co-construction de savoir en agissant directement dans le réel avec les actrices et acteurs du terrain d'études devenu champ d'action. J'ai souhaité m'entretenir avec des artistes qui se réclament de la recherche-action, définir ensemble ce que pourrait être la recherche-action en art et définir ce qui en relèverait dans le travail de chaque artiste.
Le terme, on l'a utilisé au départ de façon certainement beaucoup plus empirique et un peu comme d'ailleurs il y a d'autres collègues peuvent l'utiliser en art. Je sais que par exemple à Aix, ils parlent aussi à un moment donné de recherche-action.
Pierre Baumann, artiste-chercheur, professeur des universités à l'Université Bordeaux-Montaigne, avril 2020.
Déjà, ce qui me semblait intéressant dans le terme, et puis après je raconterai plus comment peut-être le projet s'est développé et par la bande pour essayer de voir comment, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est tout. Déjà, comme on parle de recherche-action, ce qui nous intéressait dans le terme, c'est qu'il y a action, donc finalement... ça permettait de poser quelque chose de clair, de développer une activité, et cette activité est active. Alors, sachant qu'en plus, au Canada, c'est aussi un terme qui est utilisé. Et puis après, bon, il est souvent associé, et là, c'est peut-être un travail qu'il faudrait faire dessus, mais bon, qu'on a plutôt développé de façon empirique avec cette histoire de recherche-création. Mais le terme de recherche-création me chiffonne un peu parce que, il nous place peut-être directement du côté des artistes qu'on associe à un protocole de recherche et sur le plan épistémologique, ça me semble peut-être pas que c'est pas intéressant, mais pas tout à fait exactement ce qu'on cherche. En fait, du coup, ce terme de recherche-action, c'est un terme qui est certainement intéressant. Nous, on l'a surtout utilisé comme un prétexte pour lancer des bricolages, des expériences, et qu'en ce sens, c'est aussi... sachant que je suis rattaché à un établissement universitaire, c'était aussi une façon de se raccorder à des terrains un peu connus qui relèvent de ce qu'on appelle la recherche expérimentale, quoi. Et donc de voir comment, à partir d'un travail, disons un travail sur le terrain, mais j'y reviendrai, on peut aller chercher ou faire des choses. Après, que ce soit en relation avec la recherche-création, c'était aussi une direction possible, mais qui nous raccrochait à cette question de l'artiste qui intervient dans un protocole de recherche avec les thèses en recherche-création qui se font, etc. Qui n'est pas forcément un aspect qui nous branche plus que ça, en fait, dans le cadre du projet. Et en fait, pour tout dire, je crois que quand on bosse sur le projet Moby Dick, là, c'est à la fois une question qu'on se pose et en même temps, je pense qu'il y a une approche qui est quand même relativement empirique, c'est-à-dire que part du principe qu'on lance des activités et puis on essaie d'aller collecter des choses et à partir de ça, on voit ce qui se passe en quelque sorte. Ça nous a permis d'essayer de voir ce que ça engage aussi pour les plasticiens à l'université que de faire ce qu'on appelle de la recherche, quoi. Et comme ce sont deux territoires très différents, eh bien, en fait, je pense qu'on est... ça a infléchi un positionnement que j'ai pu adopter avec la petite équipe de Moby Dick parce que à la fois ce qui m'intéressait c'était d'essayer de voir comment on peut réfléchir à cette question de la recherche en art dans un contexte élargi par rapport aux écoles, par rapport à la création, par rapport à la place des artistes, et puis aussi en contrepartie c'était de montrer aux autres collègues chercheurs qui passent leur temps à nous évaluer et à nous filer ou pas du fric, ce qu'on développe, c'est aussi une forme de recherche. Et donc, dans l'hypothèse, tout au début, il y avait quand même cette idée de se dire, est-ce qu'on peut essayer de répondre quand même aussi à ce que sont des critères de la recherche expérimentale au sens large dans le contexte académique ? Donc, il y a un exercice qui a été conduit autour de ça et qui explique, par exemple, pourquoi, à un moment donné, je m'étais dit, prenons ce manuel de Frascati, qui est dans la publi à laquelle vous aviez participé avec le Labo des hypothèses, puis essayons de voir si finalement on ne répond pas à des critères courants, en fait. Donc, il y a un travail un peu d'ordre politique, mais au sens général du terme, au sein de l'institution, qui est quand même d'essayer de voir comment on peut conduire une recherche en art de cette façon-là et qu'elle soit reconnue comme telle. Et pour l'instant, ça avance petit à petit, mais il y a encore pas mal de boulot. Et en fait, en bossant là-dessus, il y a un aspect qui s'est, à mon sens, il y a une question qui s'est posée, c'était ce qu'on produit, ce qu'on bricole, quel est le statut de ces objets-là, quoi. Et c'est notamment à partir de ce constat qu'est-ce qu'on fait, que je me suis dit, moi j'ai supposé en fait que si on rattachait toujours ça à une création artistique, je me voyais toujours renvoyé dans mes cordes du côté de l'institution, c'est-à-dire qu'on me disait mais en fait c'est de la création, donc c'est pas vérifiable, c'est pas démontrable, c'est pas répétable, et c'était chiant, et ça me renvoyait dans un espace qui m'intéressait pas. Ce qui explique pourquoi, assez vite, en fait, j'ai fait une espèce de schéma très simple en disant, si les objets qu'on produit sont des objets qui ont un autre statut, même si on utilise la créativité, si on fait de la vidéo, de la performance, des actions, enfin, peu importe, ce sont des objets qui n'ont pas la vocation à être une œuvre d'art. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du postulat, c'est-à-dire que je l'affirmais comme ça, mais ça me permettait, à mon sens, de re-réfléchir différemment au statut de ces objets. En disant, si la fonction est différente, qu'est-ce qu'on fait avec la créativité qu'on emploie dans ce contexte-là ? Alors, du côté de l'institution, c'est une chose, puis même après, au sens large, quoi, comment est-ce qu'on le fait rentrer dans un espace anthropologique courant, quoi ? Qu'est-ce qui fait que quand je fais la cuisine, je fais de la création et peut-être de la recherche, quoi, enfin. Donc, cette hypothèse, en fait, elle a été assez marrante, on travaille toujours dessus. C'est-à-dire qu'on se dit, ces objets sont des objets particuliers, donc je les ai appelés des objets libres, pour voir comment on pouvait opérer avec. Alors ces objets libres, en fait, au départ, leur définition est toujours un peu fluctuante, parce que c'est quelque chose qui est en train de se forger, mais c'était venu, alors c'est juste pour l'anecdote, mais en fait ça permet de situer aussi, c'était venu du groupe mobile de Constantin Brancusi. Cette petite pièce de 1917, elle m'avait vachement intéressée parce que tu sais, tu as trois objets, tu as une colonne, tu as la coupe dessus et puis tu as le petit bonhomme là. Et en fait, il a changé de statut, de position de plein de manières différentes. Et donc, il était complètement mobile, comme son titre l'indique. Et la fonction de ces objets-là, elle était complètement variable. Et je trouvais que c'était un bon moteur en fait, au départ, pour réfléchir au positionnement de ces objets dans un contexte donné, quel qu'il soit. C'est une autre façon, finalement, de réfléchir à la question du contexte avec une œuvre qui se la posait peut-être un peu différemment, hein, de façon un peu archaïque en 1917, mais en fait, c'est parti de là. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Après, on le retrouve dans l'historique de ces objets-là aussi. Il y avait, par exemple, les objets spécifiques de Jude qui m'ont marqué dans cette façon de dire qu'on ne sait plus tout à fait nommer ce qu'on a sous les yeux. Bref, donc, la question de l'objet, elle se pose en fait transversalement dans cette activité-là. Et donc, la question aussi de celui qui fait ces objets, donc le chercheur, entre guillemets, qui n'est pas un artiste en quelque sorte, mais qui a une vocation un peu particulière. L'ensemble du dispositif devenait un dispositif assez, assez mouvant et parfois difficile à cerner, et en même temps qui était, d'une certaine façon, j'avais quand même, par rapport à tout ça, j'avais un cap assez précis. qu'on partage, avec lequel on essaie d'avancer, mais je ne sais pas comment on fait pour y arriver, en quelque sorte. Et quand on est tombé sur Moby Dick, en fait, c'est un super modèle de travail à ce niveau-là. Ça permet de relire énormément de choses, de traverser énormément de sujets, et donc on essaie d'en faire quelque chose, quoi. Bah, en fait, Moby Dick lui-même, c'est un objet au sens où c'était vraiment, déjà, c'est un objet matériel. Il y en a plusieurs, hein, qui ont parlé de cet ouvrage littéraire comme un livre de plein air, par exemple. Un livre de plein air, c'est un livre qu'on embarque avec soi pour les dehors. Junot en a parlé. Enfin, c'est une expression qui revient de temps à autre. Au départ, on l'a vraiment pris comme un objet, c'est-à-dire comme un plasticien. Donc, il y a du texte, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il faut le manipuler aussi ? Est-ce qu'il faut l'interpréter ? Ce qui explique pourquoi, quand même, une continuité entre cette question de l'objet, au sens très large, hein, et puis là, c'est un objet littéraire, même si ça nous a déplacé en apparence sur le plan disciplinaire, parce qu'on s'appuie sur un ouvrage littéraire, mais après, ça aurait pu être un son, une musique, une autre œuvre, peu importe, c'est un support, c'était presque un guide, en fait. Ça peut être conçu, et j'y reviendrai, à la fois comme un guide ou comme un outil. Ça remplit la même fonction. Ça a été un guide au sens où ça nous a donné des indications pour aller dans des directions diverses et variées. Et c'est un outil parce que ça nous permet vraiment, d'une certaine façon, d'essayer de démonter certains enjeux. La question de la mobilité, la relecture... du déclin industriel, etc. Donc c'est un objet qui est très particulier, mais c'est à mon sens, c'est le premier objet le plus important dans le projet. Et comme c'est un objet particulier, en fait, on a commencé en essayant de comprendre comment il marche, quoi. Donc de démonter, comme tu prends ta télévision et tu démontes la télé. On a, en fait, planifié l'ensemble du travail sur 3 années. Et ça, c'est aussi peut-être, d'ailleurs, cette question de la planification, c'est aussi une façon peut-être de penser un certain rapport à l'action, du moins à la mise en action de la recherche, qui a aussi ce côté certainement très pragmatique. Donc, dans un premier temps, en fait, on s'est dit, on démonte l'objet. Donc, on a bossé pendant 1 an, donc on a fait cette performance de lecture, on s'est dit, ben, pour commencer, il faut le lire. Et si on le lit, ben, lisons-le en continu. Sans interruption, et c'est là qu'on a fait cette performance de lecture qui a duré 36 heures, qui était vraiment marrante, où on a, où sans interruption, on l'a lu intégralement en se relayant. Et une fois qu'on a fait cette performance, en fait, dans le même temps, donc on a enregistré et on a utilisé ça comme un matériau pour le livrer, et puis ensuite pour aller un peu plus loin et engager différentes formes d'interprétation, d'expérience. Donc, tout ça, cet enregistrement, il existe. En fait, c'est devenu à la fois une pièce. C'est là que c'est un objet. Cet enregistrement est aussi un objet ambigu parce que c'est à la fois une pièce à part entière, quoi. Si, en fait, c'est une pièce sonore, quoi. Et en même temps, c'est devenu aussi vraiment dans le contexte qui est le nôtre, un outil de travail, un outil d'analyse, parce qu'on va y rechercher des trucs. À partir de cette lecture en continu, on a refait des séances de discussion derrière pour discuter de ce qu'on avait lu. Ça devenait aussi un outil d'auto-analyse. Et cette phase-là, en fait, elle nous a bien plu parce que, en fait, ça mettait aussi la question du langage au centre de la problématique. À savoir que finalement, le langage, ça va être aussi un outil qui permet de faire quelque chose et puis de dire quelque chose. Donc, c'est là qu'on s'est intéressé à Austin sur le rapport entre dire et faire. Et cette question de la langue, elle a posé une question, un autre problème qui était celui, finalement, de ce qu'on comprend de la langue et en fonction du type de langage après. Donc, il y avait 2 directions. La première, c'était que, on ne peut pas parler d'une seule langue, mais de plusieurs langues. La sculpture, c'est aussi un langage formel. La langue pose la question de la traduction. Sachant que nous, on est parti d'une version traduite française. Francophone, qui est la traduction de Jaworski à la Pléiade. Donc c'est aussi une première question qu'on s'est posée au début, est-ce qu'on le lit en anglais ? Là, c'était encore une autre performance. Et ou est-ce qu'on le lit en français, où on comprend mieux le sens ? Et donc, en travaillant là-dessus, on a aussi bossé sur cette question de la traduction. Donc on a fait venir Jaworski, on a commencé à faire des entretiens, et en fait, de façon assez empirique, comme ça, c'est là qu'on a mis en place une espèce de protocole de travail qui revenait assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on se mettait dans l'action, dans l'activité, on essayait de regarder ce qui s'y passait. Quand tout à l'heure, tu disais aussi que dans la recherche-action, il y a cette notion de transformation des objets sur lesquels on s'appuie, sous-entendu aussi sur un terrain particulier, bah là, c'était un peu le cas, quoi, parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui était en évolution et en transformation. Donc pendant un an, on a vraiment bossé sur ces questions de conversion, en quelque sorte, pour comprendre un peu ce qui nous intéressait là-dedans. Et on avait mis en place une toute petite grille d'analyse très simple. Quand on a fait la lecture, en même temps, on prenait des notes. Et on avait fait un inventaire un peu systématique de tous les objets, les gestes et les sons qui apparaissaient dans chaque chapitre. Dans le premier bouquin qu'on a publié, en fait, on a cet inventaire-là. Là, c'était un truc assez marrant aussi parce que ça permettait justement de réfléchir à cette question du statut des objets, notamment chez Melville, qui sont pas des objets artistiques, mais les objets du charpentier, les objets de navigation, etc. Au niveau des typologies de gestes, c'était super intéressant aussi. Puis il y avait après même des gestes, des gestes d'ordre animal, etc. Et puis au niveau des sons, c'était assez amusant parce que là aussi, ça permettait de réfléchir à un autre type d'objet, qui étaient les objets sonores, qui ont permis ensuite de faire un travail de traduction plastique. Et donc pendant cette première année, à partir de tout ce qu'on avait fait, on a aussi produit des pièces qui étaient systématiquement des interprétations pour chaque chapitre. Et ces pièces, en général, on s'était distribué les chapitres, mais parfois on avait plusieurs pièces par chapitre. Et pour chaque chapitre, on a aussi fait une production sonore qui était associée à l'enregistrement. Donc en fait, cette première année, elle a permis d'avoir une espèce de premier outil, d'appareillage, un premier appareil en fait, avec tous ces éléments-là, comme si c'était déjà une première partie des pièces du puzzle en fait. À ce moment-là aussi, en fait, dès le départ, ce qu'on a introduit dans la méthodologie, c'est de faire des entretiens. Alors là, il y a aussi, on le retrouve en sociaux, on le retrouve en ethno, c'est finalement un aspect qu'on retrouve très souvent, c'est-à-dire en allant faire des entretiens, on découvre des choses et on a un nouveau support de travail, quoi. Donc en fait, la première année, elle consistait vraiment à lire le roman, mais à le lire pas en spécialiste de la culture anglo-saxonne, parce qu'il y a... cette première année nous a permis de produire un premier bouquin, qui est un truc qu'on aime bien parce que c'est une façon de poser des marques de façon très simple et de dire ben voilà, on arrive à le rassembler là-dedans. Et c'est aussi un objet particulier et vraiment intéressant à utiliser, dans lequel on peut faire entrer différents systèmes de langage en l'occurrence. Sachant que la finalité dans tout ça, c'est d'arriver à une espèce de trilogie, voire quatre, pour avoir un ensemble, et avec ça, on aura un espèce de tout, une nouvelle forme globale. Quand on a passé cette première année, c'est là qu'on s'est dit, cette question de la recherche-action ou de la recherche expérimentale, on en propose une formulation, mais c'est pas forcément la meilleure, c'est pas la bonne. Et c'est là qu'on s'est dit, à un moment donné, ben tiens, ça peut être pas mal de voir ce que les autres font. Et c'est là que j'ai mis en place ce colloque pour aller rencontrer les copains, quoi. Et ça a été en fait vachement plaisant, parce que déjà ça nous a rassurés sur des positions, parce qu'en fait c'est quand même pas évident souvent au sein de l'institution d'avancer en étant quand même toujours mis plus ou moins en porte-à-faux, hein. Et cela étant dit, même les archéologues, par exemple ceux qui font de l'archéologie expérimentale, se font souvent emmerder, hein. C'est difficile à défendre, et donc ce terrain à défendre, en invitant tous ces gens, ça a fait vachement de bien, parce qu'on s'est dit, on est quand même, on n'est pas tout seul, et on partage des façons de penser avec la créativité, en fabriquant des choses, quoi. Puis après, en oubliant assez vite, justement, cette question du statut de l'objet en tant qu'œuvre d'art. En fait, on faisait, puis on se posait plus la question de savoir si c'était vraiment de la recherche ou pas, si c'était de la création ou pas. Et ça permettait de lancer une expérience de vie. Et en fait, ça a été extrêmement stimulant. Ça a permis de produire ce deuxième bouquin, Donc, de l'utiliser aussi comme un autre outil. Je sais que, par exemple, vis-à-vis de mon institution, vis-à-vis de la fac, ça a été utile parce que ça a permis de montrer aussi, regardez, les gars, voilà, les choses se font comme ça. Du moins, peuvent se faire de cette façon aussi. En tout cas, le fait de vivre une expérience, en fait, c'est un truc qui nous a vachement botté. Et c'est là que la deuxième année, on s'est dit, ben tiens, il y a quand même une autre question qui est importante, c'est que Melville, il a écrit tous ses livres. Parce qu'avant, il est parti quand il avait 22, 23 ans et il est parti pendant 2 ans, quoi. Et alors, on s'est mis à s'intéresser à ce point de détail et de se dire, en effet, d'abord, est-ce qu'on peut écrire une aventure comme celle-ci sans aller sur le terrain? Il y a plein d'écrivains qui le font. Mais l'autre aspect qui nous a plutôt intéressé, c'est de dire, voyons ce que ça fait que de vraiment partir sur le terrain et commençons à réfléchir à cette question de la réécriture de Moby Dick en vivant notre propre aventure, en quelque sorte, en allant vraiment sur le terrain et en menant des actions qui sont, disons, peut-être moins ancrées dans l'ouvrage lui-même. Et en même temps, c'est là que le livre a été aussi un guide, parce qu'on s'est dit, on va quand même aller dans des... On s'est organisé pour aller à des endroits où à chaque fois, il y avait un lien plus ou moins direct avec Melville et Moby Dick. Par exemple, quand on est allé au Chili, on est allé notamment sur l'île Mocha. On y a passé un quart d'heure. Parce que l'île Mocha était le lieu où se déroulait la nouvelle de Jeremiah Reynolds sur l'histoire d'un cachalot blanc qui défonçait les baleiniers et qui est une histoire vraie. Et c'est à la lecture de cette nouvelle, notamment, que Melville s'est dit à 22 ans, tiens, j'embarque et puis je pars vivre l'aventure, quoi. Donc on est allé chercher des lieux comme ça où il y avait des affinités plus ou moins directes, parfois très peu et parfois simplement parce que on s'y trouvait là et puis il y avait une expérience à conduire. Et donc la deuxième année, on s'est dit faut aller sur le terrain, quoi. Donc on a développé différents temps et pour chaque terrain, on avait quand même fait plus ou moins un programme comme un plan de route. Et en fait, à chaque fois, là, on s'était donné, quand on se déplaçait, et là, pour le coup, c'est peut-être quelque chose qui rejoint aussi des méthodologies qu'on retrouve en socio ou en ethno. Quand on y allait à chaque fois, on développait des activités un peu systématiques, sachant que pour la plupart des voyages, on voyageait vite, on restait pas longtemps. Si on s'en tient à la définition du terrain, par exemple, d'un ethnologue, ce qu'on a fait, c'est pas vraiment du terrain, parce qu'on reste pas longtemps sur le terrain. Mais c'est une façon quand même de faire avec le terrain. Et cette question de la mobilité qui nous intéresse, quoi, vite. Et en fait, là, ce qui m'a beaucoup plu, parce qu'on est presque sur, c'est presque passé, c'était de voir comment on peut arriver à poser une espèce d'écologie de travail qui est, en fait, qui se joue un peu sur le fil du rasoir, parce qu'on arrive et en fait, on enregistre beaucoup de choses. Donc, on filme, on photographie. Globalement, on laisse pas de traces. Ça, c'est important. Et puis ensuite, on essaie quand même d'être vachement à l'écoute de ce qu'on rencontre. Et c'est pour ça aussi qu'on introduit systématiquement des entretiens. Les entretiens, à la fois, ils sont planifiés et la plupart du temps, ils ne le sont pas. On était à Chiloé, sur l'île de Chiloé au Chili. On a rencontré un dendrologue spécialisé des arbres qui étudiait les mélèzes fossilisées. Alors qu'au départ, on venait le voir parce qu'il avait fait de la veille de cétacés dans une baie paumée en Patagonie. Et en fait, ça a déclenché à chaque fois plein de trucs. Et là, pour le coup, c'est là que ça se passe. Et c'est ce sur quoi on est en train de bosser actuellement. C'est de voir comment, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe avec ça. Et notamment, qu'est-ce qui fait qu'il y a une nouvelle écriture qui va se mettre en place à l'image de Melville. Qu'est-ce qu'il a écrit avec ça, quoi. Parce que Melville, dans son histoire, quand même, au départ, les deux premiers ouvrages en particulier, ce sont des journaux. Et puis, à un moment donné, en fait, son histoire est tellement rocambolesque qu'on lui dit, vous racontez des conneries, quoi. Et donc, à ce moment-là, il se dit, puisqu'on... raconté dans Mardi, je crois, au début du livre de Mardi, il dit, puisque les gens ne me croient pas, je vais écrire une fiction avec ce que j'ai vécu vraiment. Et en fait, la construction de Moby Dick, elle tourne autour de cette question-là. Pour nous, je trouve ça vachement stimulant aussi, parce qu'en fait, ça nous amène aussi, par exemple, du côté du boulot que font Suspended Species, On va à un endroit et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est, je trouve que ça pose plein de questions, souvent morales. Par exemple, même quand ils sont allés au Brésil, j'ai trouvé qu'il y avait certaines pièces qui étaient spéciales, quoi. Sauf que ça peut déraper vachement vite, quoi, parce que sur le moment, tu fais pas gaffe, quoi, parfois. Par exemple, on s'est retrouvés, quand on était au Chili, on est allé. Le but du jeu, c'était d'aller passer plusieurs jours sur l'île Mocha. Et en fait, sur l'île Mocha, qui est plutôt au sud du Chili, au nord de la Patagonie, quoi, 50 km de la côte, et qui est cette petite île où il y a quelques autochtones qui vivent là-bas. On devait y passer plusieurs jours, et l'avion qui devait nous emmener, en fait, il y avait des problèmes de météo, donc il ne pouvait pas nous emmener. Donc on a redéplacé tout notre voyage. Au retour, en remontant, donc on essaie d'y aller, et là, le pilote d'avion, il nous plante. Donc, on avait fait tout le voyage au Chili pour ça, et finalement, on ne pouvait pas y aller, quoi. Donc, on passe une nuit là où on devait prendre l'avion, sur un petit aérodrome, où l'année d'avant, il y avait eu 13 morts dans ce petit avion. Donc, on s'est dit, bon, bah, peut-être que... Là aussi, dans un contexte de recherche comme ça, on se dit, bon, bah, on va peut-être faire gaffe quand même. Et le lendemain, on repart, et puis on repasse dans un autre petit village, et puis on remontait. Et puis là, en fait, on tombe sur le... C'était un dimanche, et sur ce qui ressemblait à un petit port, en fait, il y avait une bande de mecs, comme des chasseurs, quoi, en fait, qui étaient en train de picoler au cul du pick-up, et puis qui mangeaient des moules, qui les récupéraient, comme ça, ils zonaient, quoi, parce qu'en fait, comme la météo était mauvaise, ils pouvaient pas, les gardes-côtes avaient fait revenir tous les bateaux, donc on les passe, et puis après, je dis, attendez, les gars, on fait demi-tour, quand même, on va discuter avec eux, on leur raconte un peu notre projet, on leur dit qu'on voudrait aller à l'île Mocha, et tout, donc on passe l'après-midi avec eux, on picole, on mange des coquillages spéciaux qui ressemblaient à des cailloux. Et c'était assez dingue. En fait, on a rencontré, ça s'est passé souvent comme ça, on a rencontré plein de gens, mais qui étaient vraiment chouettes et très gentils. Et puis, on finit par avoir, pour le lendemain, on finit par avoir une barque vers des pêcheurs à moteur pour nous dire, OK, je vous amène demain si vous voulez. Donc, on s'organise et on part le lendemain matin. Et il me dit, mais il n'y aura pas beaucoup de temps. On dit, mais on veut quand même y aller, quoi. Et donc, on a vraiment mis les pieds un quart d'heure. Sur l'île, et avant d'arriver sur l'île, il nous pose sur un îlot qui était un îlot pas très gros. Et là, en fait, il y avait plein d'oiseaux, il y avait des phoques, il y avait plein d'animaux, en fait. Et l'un des pêcheurs qui nous accompagnait, il a fait un espèce de numéro de cirque où il s'approchait d'éléphants de mer. En fait, donc on a vu ça et on a vécu un truc qui allait complètement à l'encontre de ce qu'on voulait, et on n'a pas fait gaffe à quel point, en fait, on avait une espèce d'attitude colonialiste, quoi. Il y avait un truc, et c'est pour ça que je disais que parfois c'est pas évident, ça bascule, tu maîtrises pas les choses, quoi. Puis après on a mis le pied à Mocha. Donc le fait d'aller sur le terrain et voir ce qu'on y fait, c'est vraiment intéressant. Comme je te disais tout à l'heure, je suis payé pour faire ce que je fais. Et quand Melville y part, il le raconte vachement au tout début, hein, dans le premier chapitre, il dit « il faut pas partir en touriste, il faut partir en étant payé, si t'es pas payé pour ce que tu fais, ça va pas, quoi. » Et en fait, l'aventure qui se construit, même si après il déserte et tout, l'aventure qui se construit, il l'a construit parce qu'il va vivre pour gagner sa vie, quoi, et pour vivre d'autres choses. Et c'est pas du tout la même aventure, là, loin s'en faut, mais en fait, cette façon d'être payé pour faire de la recherche, et même si c'est pour aller sur le terrain comme ça, je trouve que c'est aussi un problème, j'ai pas de réponse précise, mais c'est aussi un problème intéressant qu'il faut vraiment interroger pour aller voir ce qu'on fait de ces actions possibles. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de bosser là, actuellement pour le texte qu'on va écrire dans le prochain volume, dans le travail. Essayer de faire un quatrième objet qui serait vraiment une réécriture, en fait, qui est un truc sur lequel là je suis en train de bosser. On bosse de façon plus individuelle parce qu'en fait il y a aussi des projets individuels qui sont déployés par chacun d'entre nous. Là je suis en train de bosser sur un truc qui est entre le documentaire et la fiction, quoi. C'est entre le film et le livre. Enfin, je m'intéresse vachement à Guzman et à Rossi, par exemple, même si le dernier Guzman il est vraiment pas bon. Mais il y a un truc comme ça qui m'intéresse dans la façon de... Parce que après, cette histoire de mise en fiction, c'est quelque chose qui revient vachement pour beaucoup et que je trouve aussi être une question épineuse. Parce que si on adosse très rapidement cette question de la recherche à la question de la fiction, ça fait pas un peu tomber le château de cartes, quoi. Sachant qu'après, parce que la question qu'on se pose quand même, c'est si on accepte l'idée qu'on fait plus des objets de création simplement pour, du moins simplement, c'est un bien grand mot, mais pour faire des œuvres d'art, on doit quand même vachement bosser sur l'endroit où ça agit. Et c'est ça qui est vraiment le plus qui m'intéresse le plus en ce moment. L'anecdote des pêcheurs, par exemple, avec qui on a picolé tout l'après-midi et mangé ces coquillages en forme de cailloux. Là, on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la créativité, quelle qu'elle soit, elle agit, elle apporte quelque chose de bénéfique. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est super sympathique, parce que par exemple Thomas, il avait toujours son petit Polaroid, et il a passé son temps à faire des portraits, et c'était un objet. Et ils ont fait, le mec, ils faisaient des photos avec leur téléphone et tout, ils nous prenaient en photo, on se prenait en photo ensemble, etc. Mais c'était pas pareil, quoi. En fait, ce sont ces petites choses qui me semblent intéressantes à étudier. Et là, pour le coup, ces objets, ils ont, ça peut être une photographie, mais ça peut être un caillou, Chloé, parfois, elle faisait un petit dessin, ou on prenait une graine. Il y en a qui nous ont donné des graines. Et c'est ces choses-là qui me semblent, là, il y a vraiment un truc qui me plaît. Et en fait, ça, c'était super chouette parce qu'on a rencontré, tous ces gens, on les a rencontrés parce qu'on travaillait. Bon, le mot travail est à relativiser, évidemment, mais il y a un truc comme ça qui était super. Et comment on raconte, alors après, ce temps-là où on raconte le projet qu'on est en train de faire et pourquoi on est là, c'est un temps. Il y a le temps qui fait qu'au moment justement où on teste, on est avec les gens ou sur un lieu, il y a aussi quelque chose qui se raconte, mais je pense que ce n'est pas du même ordre, parce qu'on peut se raconter simplement d'où je viens, ce que je fais, ou la technique de mon appareil, ou pourquoi ce mec il fait ça. Ils avaient là dans le cadre la scène de... on a passé l'après-midi sur la plage, en fait, il y avait un plongeur qui plongeait pour récupérer les coquillages avec un tuyau, comme un tuyau d'arrosage qui était relié à une pompe et qui lui envoyait de l'air. Il avait un espèce de pseudo-détendeur, un truc de dingue. Donc, c'est aussi, par exemple, en parlant de ça, en regardant comment ça marche et tout. Donc là, il y a quelque chose dans la manière de raconter qui me semble un peu problématique. Puis ça permet d'ailleurs de voir aussi comment les choses se bricolent, les usages qu'on fait de tous ces trucs-là. Puis après, il y a quand même un troisième temps, qui est le temps de celui où on raconte aussi et où on explique la recherche, mais presque après coup, soit à ses pairs, soit aux autres. Et là, c'est encore différent parce que là, pour le coup, avec le grand public, il y a aussi la construction d'une espèce de mythologie qui fonctionne, où qu'on aille d'ailleurs. Mais c'est sûr que dès qu'on raconte qu'on venait aller loin, il y a quelque chose d'exotique. Alors, mais on n'est pas dans les voyages, on n'est pas forcément allé très loin. J'ai fait un truc dans le Jura, là, chez moi. On est allé à Manosque, dans la maison de Giono, qui n'est pas l'endroit le plus arty qui soit. Le volet, ce serait de voir comment chacun, finalement, parvient à réécrire sa propre histoire avec... Et ne fait pas que prélever et raconter ce qu'il a fait, quoi. Comment est-ce qu'on s'en empare et où est-ce que ça se joue? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? C'est une question aussi qui me semble intéressante au sens où comment on va le restituer? Parce que si on fait une expo, par exemple, dans un centre d'art, qu'est-ce que ça fait? Comment on se positionne par rapport à ça? Où est-ce qu'il faut, dans ce cas-là, où est-ce qu'il faut le montrer? Comment? Sachant qu'en plus, à chaque fois, quand même, dans chaque temps, on est à la fois dans les temps de la restitution, de l'action, de la production sont toujours concomitants, quoi. On ne voit pas, par exemple, faire une expo où on va simplement poser nos objets et puis raconter. Ça ne peut pas se passer comme ça, quoi. Et en même temps, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'il y ait aussi un temps d'arrêt, c'est-à-dire que c'est une aventure et puis après, on fera d'autres choses, quoi. Ça répond à ta question de départ. Si, par contre, c'est là en ce moment, par exemple, on débat pas mal sur cette parce que l'année qu'on a passée, on appelle ça une année de terrain. Donc il y en a quelques-uns là dans l'équipe qui disent ouais, mais c'est pas du terrain tel qu'on le définit en sociaux ou en géo. Je dis ben oui, mais peu importe, justement, on construit notre définition et en même temps, il y a quand même des traits communs, quoi, parce que quand on va à un endroit. on collecte des données, on échange avec les gens, enfin, etc. Donc, il y a un fond commun. Donc, je pense qu'on a aussi ce boulot à faire, chacun. C'est-à-dire que même si, par exemple, cette question de la recherche-action, elle a un cadre très défini en sociaux, que je connais très mal, d'ailleurs, je pense que c'est aussi à nous de formuler quelque chose qui soit un outil, pour nous. Quoi.
Ils étaient 100, 200, 300, le merle qui grinçait. Debout sur les anémones, en se couchant, le soleil ensanglantait. J'avions 4 ans, j'avions 6 ans, je gueulions, le soleil enculé. C'était gueuloir de joie, que de gueuloir. Tu encore à nous, y penses-tu beaucoup, mon vieux, mon gros crépuscule? Penses-tu encore à nous, y penses-tu beaucoup, mon vieux, mon gros crépuscule? Sans 300 les mers.